France Inter, franceinter.com.
I, George Walker Bush,
do solemnly swear
that I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
So help me God.
So help me God.
Mille ans d'histoire. Le 20 janvier 2001, George Walker Bush devenait le 43e président d'un pays prospère, en paix et unanimement respecté dans le monde. 8 ans plus tard, au terme de son deuxième mandat, il va léguer à son successeur un État enlisé dans une guerre interminable en Irak et en Afghanistan, et victime d'une crise économique et financière comme les Américains n'en ont pas connu depuis 1929. Et George Bush est devenu tellement impopulaire que même le candidat de son parti à la présidence des États-Unis, John McCain, ne manque pas une occasion de se démarquer de la politique qu'il mène depuis 8 ans à la Maison-Blanche. Depuis qu'il y était entré presque par effraction, avec moins de voix que son adversaire Al Gore, et à la suite d'une des élections présidentielles les plus incertaines de l'histoire des États-Unis, puisqu'il avait fallu attendre plus d'un mois avant d'en connaître le vainqueur. France Inter, Philippe Habitboul, le 14 décembre 2000.
France Inter. George Walker Bush devient le 43e président élu des États-Unis après 36 jours d'un feuilleton aux multiples rebondissements. Le démocrate Al Gore a jeté l'éponge, il a reconnu sa défaite et il a appelé à l'union derrière le nouveau président. Une heure plus tard, George Bush, au Texas, prenait à son tour la parole.
I was not elected to serve one party. But to serve one nation.
Je n'ai pas été élu pour servir un parti, mais pour servir une nation. Le président des États-Unis est le président de chaque Américain, de toute race, de toute origine. Que vous ayez voté pour moi ou pas, je ferai de mon mieux pour servir vos intérêts. Et je travaillerai pour mériter votre respect. Je serai guidé par l'exemple du président Jefferson, défendre nos principes, être raisonnable dans l'action, et choyer la cause de la liberté et l'harmonie. Merci et Dieu bénisse l'Amérique.
Pierre Mélandry, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était George Bush, il y a 8 ans, à l'issue d'une élection très contestée, très serrée, et qu'il avait gagné avec d'ailleurs moins de voix que son adversaire Al Gore. Vous le rappelez dans le dernier chapitre de votre histoire des États-Unis contemporain, intitulé « L'Amérique de George Bush », un président d'ailleurs accidentel, titrait même à l'époque le magazine Newsweek en 2000, car personne n'imaginait la victoire de George Bush. Le bilan de Bill Clinton était plutôt positif et il aurait pu jouer plutôt en faveur de son vice-président, candidat à la présidence, Al Gore.
Oui, Clinton n'a jamais compris, et jusqu'à un certain point peut-être jamais totalement pardonné à Gore d'avoir perdu une élection qui paraissait gagnée. Mais Gore a toujours répliqué que s'il était porté en quelque sorte par le bilan socio-économique de son président, il était en même temps obéré par l'affaire Lewinsky et que du coup, il n'a jamais pu faire donner autant qu'il aurait souhaité Clinton durant la campagne, parce que les avantages que cela représentait étaient au moins compensés par les problèmes que cela posait. D'ailleurs, il a fait, comme vous le rappelez, un bon score. Il a quand même eu la majorité des voix populaires. Le problème est que le suffrage universel indirect prévalant aux États-Unis, il a perdu parce que
il a
perdu les grands électeurs dans des conditions d'ailleurs extraordinairement contestées, à 537 voix en tout près de Floride.
Alors, quand le résultat est connu, donc, on l'a entendu, George Bush est un président très consensuel. Il veut rassembler cette Amérique qui semblait très divisée. Or, vous le rappelez aussi, Pierre Mélandry, c'est plutôt un conservateur révolutionnaire qui n'a rien de consensuel.
Oui, alors là, ça a vraiment été une grande surprise parce que tout le monde s'imaginait que dans les conditions auxquelles il arrivait, une élection contestée, une présence relativement forte des démocrates au Congrès où les républicains ont la majorité qu'à une voix près, celle du vice-président, on est à 50-50, il allait pratiquer une politique de compromis. Et de plus, il avait fait campagne sur le thème d'un conservatisme à visage humain pour s'opposer en principe à la droite républicaine radicale, lui reprochant d'avoir voulu équilibrer le budget sur le dos des pauvres. Et lorsqu'il arrive, on a l'impression pendant un certain temps que ça va être le cas. Il a un projet favori qui est le No Child Left Behind, qui consiste en quelque sorte à étendre le contrôle du pouvoir fédéral sur le système éducatif américain. Et il va travailler sous cet aspect avec le sénateur Kennedy en particulier. Et puis soudain, tout change. Lorsqu'il décide de faire passer son deuxième projet, qui est un projet de réduction massive de la fiscalité, alors là, sans doute, sous l'influence du vice-président Dick Cheney, dont on ne dira jamais assez le rôle qu'il a joué probablement dans cette présidence, eh bien, il se raidit, il se radicalise, il recourt à ce que certains appellent la formule « my way or the highway », vous suivez, vous dégagez en quelque sorte, au point même où il va perdre sa majorité au Sénat, un sénateur républicain choqué par la brutalité du comportement d'administration, décidant de devenir indépendant et de voter avec les démocrates. Mais cette réforme est votée et elle assure que 25% des coupes iront à 1% des Américains les plus favorisés.
Et puis il est le candidat des évangélistes. Quand on lui pose la question « Quel est votre philosophe préféré ?» C'est Jésus-Christ, hein, répond George Bush. Le candidat également un candidat ultralibéral préconisant la diminution des impôts en faveur des revenus les plus élevés. Et puis alors, le candidat aussi des lobbies pétroliers et charbonniers, ce qui explique qu'une des toutes premières mesures qu'il prend, c'est d'annoncer qu'il refusera d'appliquer le fameux protocole de Kyoto pour la réduction des gaz à effet de serre.
Oui, or là, ça a vraiment été quelque chose qui a, d'une certaine façon, surpris, parce qu'on pensait qu'il ferait peut-être comme Nixon. Nixon était allé au-devant de la Chine, alors qu'il passait pour le faucon anticommuniste rêvé aux États-Unis. Et certains avaient nourri l'espoir qu'il agisse de la même façon, c'est-à-dire que, représentant les lobbies pétroliers, il surprendrait en donnant son aval à ce protocole de Kyoto. Or, ce n'est pas du tout ce qu'il fait, et au contraire, ça va déjà marquer son image d'unilatéraliste. Vous savez quelle est la formule qu'il emploie. « Because first things first, there are the people who live in America. » C'est-à-dire l'Amérique d'abord, et tant pis pour le reste, alors que l'Amérique émet le maximum de gaz à effet de serre.
Oui, effectivement, car au début, dans sa campagne électorale, dans les premiers mois de son mandat, Bush ne semble pas s'intéresser à la politique étrangère, pas plus que les Américains d'ailleurs, ni aux problèmes internationaux. Or, justement, ces problèmes internationaux, eh bien, ils vont s'inviter de manière spectaculaire dans la politique de George Bush le 11 septembre 2001.
On vient de l'apprendre, un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure de l'île de
On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country.
Le 11 septembre, les ennemis de la liberté ont commis un acte de guerre contre notre pays. Ceci en l'espace d'une seule journée.
And night fell on a different world.
La nuit est tombée sur un monde différent.
A world where freedom itself
un monde où la liberté elle-même est attaquée.
Americans should not expect one battle,
L'Amérique ne doit pas s'attendre à une seule bataille, mais une longue campagne,
unlike any other,
différente de toutes celles que nous avons connues.
Every nation, in
Chaque
every region,
nation doit prendre maintenant
now
sa décision.
Has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes avec les terroristes.
Et c'était George Bush au Congrès, 9 jours à peine après le 11 septembre, un tournant dans la politique des États-Unis et dans celle de George Bush, parce qu'il allait marquer, vous le dites, Pierre Mélandry, toute sa politique étrangère et même l'essentiel de sa politique pendant les 7 ans à venir jusqu'à aujourd'hui, hein, la lutte contre le terrorisme, l'alpha et l'oméga de toute sa politique étrangère, dites-vous Pierre Mélandry.
Oui, on peut dire que pour la Maison-Blanche, le slogan semble être désormais « Le monde a commencé le 12 septembre ». Il y a véritablement quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit. Et le président, qui était en train véritablement de chercher son rôle et chercher sa voie à l'été 2001, devient désormais un président de temps de guerre. Et vous avez remarqué qu'il qualifie les attentats, c'était dans l'extrait que nous avons entendu, d'actes de guerre. Oui. À partir du moment, ce moment, la guerre contre le terrorisme devient en quelque sorte le schéma organisateur de toute sa présidence. Et on peut dire que ça vient effectivement être l'alpha et l'oméga. Jusqu'ici, au fond, le problème pour les États-Unis était qu'après la disparition de l'URSS, ils s'étaient retrouvés sans ennemis, sans boussole pour orienter leur politique étrangère. Et de façon d'ailleurs excessive, on va bien le voir, George Bush va faire du terrorisme en quelque sorte et de la lutte contre ce danger dénoncé comme mortel pour les démocraties et pour le monde civilisé, l'ultima ratio de toutes ces décisions.
Oui, mais un ennemi insaisissable, d'où le problème.
Alors, double problème. Un problème, nous verrons par la suite, c'est qu'on ne peut pas effectivement le localiser, ce qui rend les choses assez difficiles. On va le voir en Afghanistan. Mais aussi, autre problème, c'est qu'il faut mener cette lutte apparemment sans fin. C'est ce que déjà les observateurs commencent à reprocher à cette présidence. Que veut dire la lutte contre ce qui est, après tout, moins une menace en soi qu'une stratégie.
En tout cas, ce président mal élu, on l'a vu en 2000, ce président dont la popularité a même baissé pendant les premiers mois de son mandat, devient soudain, en quelques heures, en quelques semaines, en quelques jours, le président ou un des présidents les plus populaires des États-Unis. Il a 80% d'opinions favorables dans les semaines qui ont suivi le 11 septembre. Et d'ailleurs, même quand il prend, à cause de cette lutte contre le terrorisme, des mesures qui limite sensiblement les libertés individuelles aux États-Unis. C'est le vote dès le mois d'octobre 2001 du Patriot Act, Pierre Mélandry.
Oui,
rappelez-nous en quoi ça consiste quand même, parce que jamais on n'avait vu ça depuis la guerre.
Ça consiste, pour le Congrès, à donner au président des pouvoirs tout à fait exorbitants, puisque ça permet à l'exécutif de s'ingérer dans la vie privée des citoyens américains et de détenir pratiquement sans limite des non-américains dont les États-Unis se seraient emparés. Mais il faut voir qu'au-delà de ce que le président fait voter par le Congrès, il se reconnaît à lui-même, au titre de la théorie de l'exécutif unitaire, des pouvoirs tout à fait phénoménaux, créer des tribunaux militaires, organiser des rendictions, c'est-à-dire des transferts extraordinaires de détenus dans d'autres pays où ils sont interrogés avec des méthodes plus ou moins douces. Et on a véritablement là quelque chose qui évoque, si vous voulez, la vieille formule « salus populi suprema lex » ou encore ce que déjà disait Madison dès le XVIIIe siècle, à savoir que la perte de la liberté dans un pays procède souvent des mesures qui sont prises pour se prévenir contre un danger réel ou supposé en provenance de l'étranger.
Alors, soutenu aux États-Unis par l'opinion publique, il l'est aussi à l'étranger, en tout cas dans les pays alliés des États-Unis. Hein, on se souvient de cette formule de Jean-Marie Colombani dans Le Monde. Nous sommes tous des Américains, si bien d'ailleurs que pour exercer des représailles, pour attaquer l'Afghanistan, eh bien, pratiquement personne dans le monde entier ne s'y oppose, même si très vite on se rend compte que malgré la prise de Kaboul, eh bien, Ben Laden, qui était l'objectif en fait de cette attaque de l'Afghanistan, reste totalement introuvable, Pierre Mélandry.
Oui, là il y a un soutien total des démocraties et même d'autres pays aux États-Unis parce que manifestement, ils bénéficient d'un surcroît de sympathie extraordinaire. Ils ont été quand même agressés et tout le monde comprend qu'une superpuissance ne puisse laisser un tel acte impuni. Même si certains considèrent déjà que trop mettre l'accent sur la dimension conventionnelle de la réplique, en particulier militaire, sans réfléchir à d'autres mesures d'accompagnement susceptibles d'éradiquer les racines du terrorisme, c'est peut-être déjà faire preuve d'un petit peu de trop d'impatience. Mais le moment pour les États-Unis est effectivement extraordinaire. L'ONU approuve une intervention américaine, de même que le Congrès. Et ce qui se passe simplement, c'est que les États-Unis, hésitant à trop engager leurs troupes, transfèrent une partie des responsabilités à des seigneurs de la guerre afghans. Et c'est ainsi que lors de la fameuse bataille de Tora Bora, Ben Laden, qui semble pouvoir être capturé, parviendra à s'échapper pour, par la suite, rester jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, insaisissable pour les Américains.
Alors insaisissable, mais si bien qu'on se tourne vers un de ses alliés supposés un an plus tard, en mars 2003, eh bien, George Bush s'en prend à l'Irak, accusé sans aucune preuve de détenir des armes de destruction massive et d'être l'allié d'Al-Qaïda.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets.
Sur mes ordres, les forces de coalition ont commencé à frapper des cibles d'importance militaire pour empêcher Saddam Hussein de faire la guerre.
the dangers to our country.
Mes chers compatriotes, nous triompherons des dangers qui menacent notre pays et le monde. Nous défendrons notre liberté, nous apporterons la liberté aux autres et nous vaincrons. Que Dieu bénisse notre pays et ceux qui le défendent.
And all who defend her.
La moitié de Bagdad est recouverte de fumée. La rive gauche du Tigre est entièrement recouverte de fumée. Le ciel est complètement illuminé comme en plein jour. Je vois le palais de la République qui n'existe plus, qui est pulvérisé. Depuis 3 minutes maintenant, le ciel est complètement illuminé à cause des missiles qui tombent sur l'Irak.
You said we're headed to war in Iraq.
Coalition forces have begun striking selected targets. Of military importance.
Et c'était The George Walker Bush Singers, hein, une parodie, War in Iraq, une musique assez curieuse après cette intervention américaine, mais qui cette fois-ci n'a plus le soutien qu'elle pouvait avoir quand il s'était agi d'attaquer l'Afghanistan. Car on le sait, on l'a su très vite d'ailleurs, on n'a pas trouvé d'armes de destruction massive et on n'a pas prouvé que Saddam Hussein était l'allié d'Al-Qaïda, Pierre Mélandry.
Oui, d'ailleurs on avait senti le problème dès novembre 2001, lorsque les Américains avaient laissé entendre que l'Afghanistan n'était que le début. Beaucoup avaient supposé que la suite serait précisément l'Irak et avaient fait savoir qu'en aucun cas, ils ne pourraient soutenir une guerre en Irak. Et effectivement, on va marcher à cette guerre du côté de l'administration Bush, non sans difficulté d'ailleurs, mais grâce en partie à l'apathie d'une presse. Vous avez expliqué tout à l'heure que cette aura que donne au président son rôle prioritaire dans la lutte contre le terrorisme, d'une certaine façon, anesthésie la capacité de réaction de la presse. Jusqu'au moment, évidemment, où on va découvrir que les deux raisons avancées, les deux principales raisons, à savoir la présence d'armes de destruction massive d'un côté ou de l'autre, les liens entre ce régime, après tout, laïque et les terroristes d'Al-Qaïda, évidemment, ne sont tout sauf prouvés et sont très certainement quasi inexistants.
Alors l'argument quand même qui est avancé, ça c'est évidemment un argument qui dépasse très largement les représailles ou la lutte contre le terrorisme, c'est la défense de la démocratie que George Bush identifie en fait à la politique des États-Unis.
Oui, alors je pense que c'est un argument qui est sérieux au départ parce que l'on a cru comprendre du côté des stratèges américains que la meilleure manière de mettre un terme au terrorisme, c'était de démocratiser le Moyen-Orient. Qu'au fond, le terrorisme était le produit de régimes autocratiques, corrompus, qui ne laissaient plus aux opposants comme seule voie que d'aller écouter les mollahs les plus extrémistes dans les mosquées. D'où cette idée à partir de l'Irak de déclencher un phénomène de domino positif qui gagnerait l'Iran et du coup, évidemment, ferait ombre au Hezbollah, au Hamas et permettrait ultimement un règlement de paix acceptable dans le conflit israélo-palestinien. Ça ne se passe évidemment pas du tout comme cela. Et finalement, on peut aussi se demander dans quelle mesure les objectifs n'étaient pas du côté, non pas des néoconservateurs qui apparemment croyaient à cette vision, mais du côté d'hommes qui sont des nationalistes durs, du type Cheney ou Rumsfeld, de faire de l'Irak une sorte de substitut à une Arabie saoudite qui est un peu discréditée à l'époque aux États-Unis du fait du nombre de Saoudiens que Ben Laden a eu l'habileté diabolique de glisser parmi les terroristes du 11 septembre et de faire de l'Irak, au fond, un lieu de base américaine et un lieu aussi d'approvisionnement pétrolier prioritaire.
En tout cas, certains pays de la coalition qu'il avait utilisée contre l'Afghanistan ne marchent pas. Hein. La France en premier, on le sait. La Chine aussi, la Russie, il n'y a plus de coalition. L'ONU, ce n'est pas au nom de l'ONU qu'il intervient en Irak. D'ailleurs, Bush s'en moque, vous le citez, quand il s'agit de notre sécurité, absolument, nous n'avons besoin de permission de personne. Alors, il intervient seul, d'ailleurs avec encore le soutien de l'opinion américaine, d'ailleurs au point d'ailleurs de présenter présenter sa candidature pour un deuxième mandat à la Maison-Blanche à la convention du Parti républicain en 2004.
Même si nous n'avons pas trouvé beaucoup d'armes de destruction massive, je crois que nous avons eu raison d'aller en Irak. L'Amérique est plus sûre. Arnold Schwarzenegger.
Ladies and gentlemen, America is back.
Mesdames et messieurs, l'Amérique est de retour. Après l'attaque de notre patrie, de notre économie et de notre mode de vie. On a gagné Amérique. Et le président Bush nous défend de tout son cœur, de toute son âme. Il faut le garder à Washington 4 ans de plus.
Et George Bush restera effectivement 4 ans de plus à la Maison-Blanche. Ça a beaucoup surpris en France parce que déjà, on savait que les États-Unis commençaient à s'enliser en Irak. On apprenait surtout, on l'avait déjà appris avant sa réélection, ce qui se passait à la prison d'Abu Ghraib, c'est-à-dire l'emploi de la torture. On ne saura que plus tard d'ailleurs qu'elle était autorisée par les autorités américaines, Pierre Mélandry.
Oui, et cette affaire d'Abu Ghraib a certainement porté un tort énorme à l'image des États-Unis dans le monde et plus particulièrement dans le monde arabo-musulman. D'une certaine façon, si l'on voulait fournir des recrues à Ben Laden, c'était là encore le meilleur moyen de le faire. Ce qui a surpris dans l'élection, effectivement, c'est qu'on considérait qu'au regard des revers déjà subis en Irak, l'opinion américaine se rebifferait.
Voterait pour John Kerry, qui était son adversaire.
Oui, pour un candidat centriste en plus, qui avait voté d'ailleurs les pouvoirs au président pour conduire la guerre d'Irak et qui paraissait donc assez modéré pour, en quelque sorte, remporter l'élection. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé parce que la campagne de Bush a été extraordinairement habile. Elle a consisté à transférer le référendum d'un référendum sur Bush, en quelque sorte, à un référendum sur Kerry. Et alors là, on a assisté à une entreprise de démolition systématique, mais finalement assez efficace, de ce personnage, qui pourtant était un héros de guerre du Vietnam, médaillé, qu'on a présenté comme une girouette, comme un homme susceptible.
Mais il avait voté l'intervention américaine en Irak.
Je disais, oui. Justement, c'est pourquoi on l'avait désigné du côté démocrate, pour ne pas risquer, si vous voulez, d'aliéner une partie des indépendants. Et Kerry va se faire évidemment dénoncé comme quelqu'un qui est prêt à brader les intérêts américains aux Nations Unies. On va dire « he looks French ». Et vous savez que la France avait très mauvaise réputation à cette époque. Et surtout, on va insister sur le fait qu'au fond, Bush est le seul véritable leader capable de mener le pays, qu'on ne change pas d'équipe en temps de guerre. Vous avez, comment dirais-je, livré un extrait de Schwarzenegger, mais Rudolf Giuliani avait dit lors de la convention « Dieu merci, George Bush et notre président en ce moment. »
Alors il l'est, mais à partir de ce moment-là, l'opinion commence à basculer. On reproche à George Bush l'enlisement en Irak sans succès, le fait qu'on ne découvre toujours pas Ben Laden, et puis aussi on lui reproche de ne pas se préoccuper suffisamment des problèmes intérieurs que Bush avait négligés, ou surtout qu'il n'avait pas prévus, comme celui que posaient en 2005 les ravages provoqués par l'ouragan Katrina sur les côtes de Louisiane. France 3, Philippe Castel, le 1er septembre 2005.
Une catastrophe naturelle d'une ampleur jamais connue aux États-Unis. L'ouragan était bien annoncé, mais les dégâts et les victimes qu'il a causés dépassent toutes les prévisions. Aujourd'hui, face au désastre, la polémique enfle. Même le président américain n'échappe pas aux critiques. Celle d'être resté en vacances dans son ranch au Texas jusque mercredi. Celle de ne pas s'être rendu dans les États sinistrés.
Les gens meurent, il y a des gens qui sont en train de mourir là-bas. Les bébés meurent, nous crevons de faim.
Mon bébé a 3 semaines. Comment un bébé de 3 semaines peut survivre ici? Il n'y a pas de lait, pas d'eau.
Bien sûr, l'armée a été mobilisée. Mais les moyens de la plus grande puissance du monde semblent aujourd'hui dérisoires. Et George Bush est la risée de ses détracteurs.
Le gouvernement américain n'avait pas de plan d'évacuation. C'est incroyable. La première puissance du monde, le roi des vacances, a dit depuis son ranch dans le Texas, partez.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu entendre en 2002-2003. Là, c'est vraiment le début d'un déclin de Bush dans l'opinion publique, Pierre Mélandry, et qui va s'aggraver parce que impuissant sur le plan intérieur avec cet ouragan, on va voir également Bush, on se rend bien compte qu'il n'est plus en mesure non plus de s'en prendre au projet d'armement nucléaire de la Corée du Nord ou de l'Iran, et même à la crise économique et financière.
Oui, ça détruit totalement l'image que son équipe avait réussi a admirablement projeté l'image d'un leader compétent, déterminé, lucide. Là, au contraire, ce que Katrina, souligne, c'est l'incompétence totale de cette administration, les hésitations de Bush, qui félicite le directeur de l'agence en charge de la gestion du désastre pour ensuite le limoger 3 jours après. Et à partir de là, vraiment, on découvre qu'un des problèmes majeurs de cette administration, outre l'idéologie qui a déjà souvent été dénoncée, c'est l'incompétence. On prend des gens loyaux qui sont des idéologues forcenés et on méprise les avis des experts. Et tout ceci, évidemment, aboutit sur la plupart des plans, sauf peut-être un petit peu sur l'Irak où on écoute enfin un véritable expert qui est le général Petraeus, à des catastrophes, la principale étant évidemment la catastrophe financière que nous sommes en train de vivre en ce moment.
Mais est-ce qu'on peut l'imputer à la politique de George Bush? Certes, sa politique ultralibérale qui a consisté à laisser la bride sur le coup aux banques, à la réserve fédérale, il a peut-être joué un rôle, mais au fond c'est un peu une catastrophe, pas inévitable, mais enfin est-ce qu'il a joué un rôle là-dedans? Est-ce qu'il en est responsable?
Oh, il n'est certainement pas responsable à part entière de cette affaire qui, au fond, trouve ses racines, si on regarde bien, dans la mise en place de la révolution conservatrice au début des années 80, dans l'impact de la globalisation, dans l'adhésion d'une partie de l'opinion américaine au tout marché. Bref, à cette dérégulation qui a supprimé en quelque sorte ce qui devrait être un élément fondamental des marchés, la peur, pour y substituer exclusivement la cupidité, avec le résultat qu'on sait. Greenspan, certainement, a joué un rôle au moins tout aussi, sinon plus important que le président.
S'il n'en est pas responsable, en tout cas sa cote de popularité est tellement mauvaise que son candidat, enfin le candidat républicain, ne fait pas appel à lui dans aucun de ses meetings. Il se garde bien, il dénonce même d'ailleurs certains aspects de la politique de Bush. C'est vraiment un bilan assez terrible. Est-ce qu'il n'y a que du négatif dans le bilan de George Bush, Pierre Mélandry?
Écoutez, c'est un bilan essentiellement, et même je dirais 95% négatif. Il y a, ceci dit, des choses qu'il faut noter. Pour les conservateurs, il a quand même renforcé la majorité conservatrice à la Cour suprême. Ce sera probablement son principal legs à l'histoire. Il a aussi multiplié les cadeaux à ses amis et protégé.
Oui, mais pour les États-Unis en général.
Mais pour les États-Unis, je dirais qu'il a quand même négocié un accord avec la Corée du Nord, un accord qu'il avait d'ailleurs lui-même bloqué, mais qu'il a eu l'intelligence à la fin de débloquer. Et surtout, il faut le dire, il a fait beaucoup pour l'Afrique, où d'ailleurs il est encore relativement populaire, luttant contre le sida, luttant contre le trafic d'êtres humains, cherchant à travers le programme du millénaire à imposer une bonne gouvernance à des peuples qui en ont véritablement besoin.
Merci Pierre Mélandry. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Histoire des États-Unis contemporains » qui vient d'être publié chez André Versailles Éditeur et dont le dernier chapitre est consacré à la politique de George Bush. Vous avez également dirigé aux côtés de Justine Faure la revue 20e siècle numéro 97 consacrée à l'Amérique de George Bush et publié dans la collection Presse de Sciences Po. À lire aussi une histoire du néoconservatisme aux États-Unis de Justin Weiss qui vient de paraître aux éditions Ogil Jacob. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire Being W. Bush de Carl Zero et Michel Royer, disponible chez EuropaCorp Distribution. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Olivier Riotor et Vincent Godard. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Hervé Evano et Caroline Chausset. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, deuxième partie de nos émissions spéciales élections américaines, les pouvoirs de la Maison-Blanche.